Est-ce que vous pourriez parler d'un auteur ou d'une autrice que vous aimez particulièrement voir lire ses propres textes, Pauline Peyrade?
Oui, moi je pense à l'autrice et poétesse Laura Vasquez. J'ai eu la chance de l'entendre lire des extraits du livre Du large et du long au Marathon des mots l'année dernière. Et je l'ai trouvée vraiment éblouissante. Le texte est déjà magnifique et de l'entendre lire très droite, très intense, très grave et très, très tenue, c'est très puissant et très émouvant.
Justine Bertillot, est-ce que vous pensez à quelqu'un ?
Alors moi, c'est via un média, évidemment, puisque je n'ai pas eu l'occasion de la voir lire en vrai, mais je répondrai Kate Tempest, parce que il y a, même via l'écran, il y a quelque chose qui passe dans son phrasé, l'intensité qu'elle met quand elle lit ses propres textes, que j'aime beaucoup.
Stanislas Nordet ?
Pierre Guyotat, sans hésitation. Il n'est plus là, parce que c'est une langue tellement particulière, une langue plus qu'organique. Et le voir, lui, s'en emparer, ça crée une ligne de clarté totale sur tout le mouvement de son écriture, quoi. Donc, c'est l'incarnation de à la fois de la complexité et de la simplicité de cette langue-là, quand il la porte, lui.
Et voir un écrivain, une écrivaine porter sa propre langue, vous, en tant que comédien, qu'est-ce que ça vous apprend, peut-être ?
Beaucoup. En plus, moi, en tant qu'acteur, j'ai beaucoup dit « je » à la place de Falk Richter, à la place de Pascal Rambert, à la place de Wajdi Mouawad même. C'est très important pour moi de voir l'organicité, d'où ça part, d'où ça vient, parce que ça part du corps, c'est-à-dire on écrit avec son corps, on n'écrit pas avec sa tête, on écrit avec son corps. Donc voir un écrivain ou une écrivaine lire, même quand c'est maladroit, il y a quelque chose sur la nécessité qui apparaît.
Sur France Culture, et ce n'est pas du théâtre, ce sont des romans. Il n'y a pas de théâtre dans ces romans, voilà ce qui me plaît, dit Stanislas Nordet. Ce sont des romans dont la langue dit la violence, l'inceste. Quand on est chassé de la parole, on écrit. Et puis ici, c'est dit, devant des gens bien vivants qui deviennent spectateurs et témoins. Le roman est sur scène et l'impact est impossible à éviter. Quand Stanislas Nordet lit « Le voyage dans l'Est » de Christine Angot en 2021, il l'appelle immédiatement pour lui dire son envie de le penser au théâtre. Elle y retrace l'inceste et l'emprise que lui fait subir son père de ses 13 à ses 28 ans, lui qui habite Strasbourg et a une famille dont elle ne connaîtra pas les enfants. Stanislas Nordet dit à Christine Angot « Je ne vais pas faire d'adaptation ». La force d'énonciation de la langue est au cœur du spectacle, la structure du roman aussi. Pas de dispersion, ça met une vie de faire la mise au point, alors les 6 acteurs et actrices sur le plateau y travaillent. On est face à 3 Christines, une à 14 ans, une autre est trentenaire, la dernière à 60 ans. C'est elle qui convoque chacun chacune, elle qui au théâtre peut faire face à ce père d'hier qui à l'époque du crime a 44 ans. Littérature est debout sur scène. Le roman de Pauline Peyrade s'appelle « L'âge de détruire » et sur scène elle l'a entre les mains. Elle lit les pages du livre où Elsa a d'abord 7 ans, puis sera trentenaire, le récit est en 2 parties, âge 1, âge 2. Il y a la mère abusive, la violence du quotidien, les liens dégradés, l'inceste, il y a l'appartement, les objets qui entourent la petite fille. Sur scène, l'autrice est accompagnée par Justine Bertillot, circassienne. Cela fait plusieurs années que leurs écritures entre les mots et le corps se rencontrent. Le roman entre en scène donc. Il ne s'adapte pas, ce sont nos oreilles, nos yeux, nos corps qui vont devoir s'adapter et recevoir les impacts de la littérature qui nous fait face. Nous sommes donc avec le comédien et metteur en scène Stanislas Nordet. Son spectacle, Le voyage dans l'Est, d'après le roman de Christine Angot, prix Médicis en 2021, se joue jusqu'au 15 mars au Théâtre des Amandiers à Nanterre, avant de partir, on l'espère, en tournée. Nous sommes avec l'autrice et metteuse en scène Polyte Peyrade, l'artiste circassienne Justine Bertillot. Leur spectacle « L'âge de détruire » d'après le roman de Pauline Peyrade, paru aux éditions de Minuit en 2023 et prix Goncourt du premier roman, se joue jusqu'au 23 mars à Théâtre Ouvert à Paris et sera à la Comédie de Colmar les 15 et 16 mai. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture, on commence avec la voix de Christine Angot en 2021, au moment de la sortie du roman Le Voyage dans l'Est.
Il n'y a rien qui soit facile à écrire de toute façon, rien. Écrire de toute façon c'est difficile, pourquoi ? Parce que vous avez un modèle, un souvenir inattrapable de quelque chose qui s'appelle le réel. Bon. Et écrire c'est faire en sorte que le réel s'arrache à l'inattrapable, s'arrache au souvenir et soit reconnaissable par tous, à commencer par vous et par tout le monde. Étonnant. Ah mais oui, c'est le réel. Et si c'est pas le réel qui est écrit, on s'ennuie, tout simplement. Ça ne nous intéresse pas.
Stanislas Nordet, quand vous lisez Le Voyage dans l'Est en 2021, vous appelez Christine Angot, vous avez quelle intuition et qu'est-ce que vous lui dites en ayant refermé le livre ?
J'ai aucune intuition sur le spectacle que ça va devenir. J'ai l'intuition que ces mots ne peuvent pas ne pas arriver sur une scène. Donc je lui pose la question d'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Parce que c'est important. Est-ce que c'est juste pour toi que ces mots arrivent à la scène ? J'ai une première image, je n'ai qu'une image, c'est l'image de cette femme de 60 et quelques années qui est face à son père qui a abusé d'elle quand il en a 44. C'est-à-dire c'est cette image-là scénique qui m'apparaît tout de suite et qui me semble être la colonne vertébrale, c'est-à-dire une rencontre improbable, impossible, entre cette femme qui est plus vieille aujourd'hui que cet homme au moment où tout s'est passé. Donc il se passe ça, je parle très longuement à Christine de ce que j'ai lu, vu, entendu, et je me rappelle que j'ai inscrit sur un petit bout de papier, il faut que ce soit un spectacle à lire, un spectacle à entendre et un spectacle à regarder. C'est la seule chose que qui me vient au départ, c'est-à-dire comment les mots peuvent physiquement apparaître au plateau, sachant que je me lance là-dedans, moi j'ai jamais adapté de roman, je suis plutôt contre, c'est-à-dire que pour moi un roman ça s'adapte pas, faut pas enlever une virgule, quoi que ce soit et tout ça, donc je suis dans un énorme paradoxe, mais avec un besoin irrépressible de le faire.
Parce que l'écriture de Christine Angot, vous la rencontrez d'abord via l'écriture dramatique dans les années 90, à Théâtre Ouvert. C'est par cette écriture pour la scène que vous la rencontrez.
Absolument, c'est Lucien et Micheline Atoun qui me font lire, je crois que c'est Corps plongé dans un liquide, que je lis en premier, qui est édité en tapuscrit. J'en profite pour envoyer un petit salut à Micheline Atoun qui vient de nous quitter. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Christine. Je ne pense pas que j'ai lu d'autres choses. Je commence par le théâtre. Et d'ailleurs, Christine est quelqu'un qui est innervé par le théâtre. Elle y va beaucoup. C'est quelque chose qui est important pour elle. Quand on parlait tout à l'heure des auteurs et des autrices qui disent leurs textes,
elle aime beaucoup
quand elle dit ses textes, elle est magistrale, quoi. C'est-à-dire,
Comment vous décririez son corps et sa voix justement quand elle lit, parce que c'est très singulier. Et elle fait beaucoup de lectures publiques de ses textes.
C'est terriblement sensible, charnel. On a l'impression qu'elle est au moment du geste d'écrire. Ceci, je ne sais pas du tout si elle écrit comme ça, mais ça brûle, quoi. Ça brûle. Et y a une netteté absolue dans ce qu'elle dit. Et c'était intéressant avec les actrices, parce que les trois actrices, Cécile Brune, Charline Grand et Carla Hautebeau, qui incarnent Christine dans le roman, avaient peur de ça un petit peu au début. Elles disaient, il faut surtout pas qu'on fasse comme elle. Le modèle est un peu, voilà. Et ceci, j'ai choisi et Cécile et Charline et Carla, parce que justement, elles n'ont rien à voir avec Christine Angot, et que je voulais que très très vite, au début du spectacle, on puisse oublier Christine Angot. Tout ce que tous et toutes nous pensons, on a des images de qui elle est, dans l'espace médiatique, etc. Et je voulais qu'on soit sur l'écriture et sur Christine, le personnage.
Et vous parliez de l'adaptation. Justement, c'est vrai que quand on parle de roman sur scène, on pense tout de suite à quel type de modifications vont être apportées, comment on va
tordre la chose, pour parfois dialoguer des moments. Et vous, très vite, vous n'avez pas envie d'y toucher.
Bah, ce qui m'avait, en dehors de la langue, ce qui m'avait frappé, c'était l'architecture du texte. Donc je voulais absolument garder l'architecture. Très vite, d'ailleurs, une des principales décisions, ça a été de décider de ne pas demander à Christine d'adapter avec moi. Parce que je pensais que tout à fait légitimement, si on travaillait tous les deux sur le matériau, elle aurait envie d'en faire autre chose. Parce que Christine, c'est une aventurière, elle invente, etc. Donc elle aurait voulu, je pense, se déplacer. Donc j'avais besoin d'être seul face à la matière, même si ça me faisait très très peur, parce que j'avais jamais fait ça. Mais j'avais voilà cette conviction intime que il y avait quelque chose à jouer en avançant pas à pas. Je sais pas que j'ai travaillé comme dans les films, les vieux films, on avance dans la jungle avec une machette et puis on voit rien de ce qui arrive devant. Et voilà, j'ai vraiment à vue quoi.
Et l'idée que Christine, elle serait trois sur scène, ça c'est arrivé tôt ou parce que c'est évidemment une des forces du spectacle qu'on voit, c'est que à la fois vous parliez de cette improbable rencontre de Christine 60 et quelques années face à son père de l'époque, et c'est aussi cette Christine de 60 ans qui aura toujours 14 ans. Donc, et c'est aussi une foule de jeunes femmes, de jeunes filles qui parlent, donc ça ouvre l'écriture.
Alors très vite, c'était clair que c'était Cécile Brune qui devait être la narratrice. Ça m'est, voilà, j'ai pas hésité. Et après, j'ai envisagé plusieurs. C'était pas au départ trois Christine. Elles ont d'ailleurs été pendant très longtemps deux dans la distribution. Il devait y avoir juste la jeune et puis la plus âgée. Et puis pendant les répétitions, il y a quelque chose où il me semblait que une vie ne se racontait pas complètement, parce que quand Christine écrit, je pense qu'elle a 63 ou 64 ans, donc elle parle de faits qui se sont passés, qui ont commencé dans les 13-14, donc 50 ans avant. Donc je voulais que le spectateur puisse traverser une vie et qu'on ait des corps qui racontent cette vie-là étroitement. Mais Charline est arrivée tard dans le projet, Charline Grand, pour faire Christine 28-40 ans. Et là, quand j'ai trouvé les trois Christine, l'idée des trois Christine, j'ai trouvé le fil, on va dire, de l'adaptation, même si j'ai pas voulu signer adaptation, hein, parce que pour moi, c'est pas une adaptation, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est, mais c'est autre chose.
Et sans vouloir justement imiter l'énergie, le rythme de Christine Angot, on en parlait tout à l'heure en lecture, est-ce que les comédiens et comédiennes ont rencontré Christine Angot et qu'est-ce qui se passe lors de cet échange-là?
Alors c'était extrêmement important pour moi que la rencontre ait lieu, parce que comme je le disais précédemment, je pense que Christine s'est déployée à des endroits tellement divers dans la sphère publique, en dehors de ce qu'elle écrit, que il y a quelque chose qui se dégage, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on a des a priori et tout ça. Et je voulais, moi je connais Christine depuis 30 ans, on se croise beaucoup, et donc je voulais que les acteurs et les actrices voient non pas qui elle est véritablement, mais voilà, je savais qu'en faisant la... Et c'est ce qui s'est passé, elle est arrivée, d'abord elle était fragile, émue de les rencontrer, parce qu'elle aime les acteurs, les actrices, elle était curieuse d'eux, donc tout de suite il y a quelque chose que j'ai senti qui a été un moment important dans la répétition, qui a fait basculer la chose. Et là, d'ailleurs, depuis qu'ils ont vu, je les ai tous envoyés voir Une famille, le film.
Christine Angot qui sort le 20 mars.
Voilà. Ça a encore bougé quelque chose dans leur travail, parce qu'évidemment, ça a rajouté une strate, une couche dans leur compréhension du geste. Parce qu'au-delà de l'écriture, il y a un geste, je ne sais pas, dans ce que déploie Christine, au-delà du palimpseste, au-delà de... Et puis surtout aussi, j'ai voulu que nous tous on relise tout ce qu'elle avait écrit pour se rendre compte que elle avait peu écrit sur l'inceste. Parce que ça aussi c'était important, c'était de réouvrir tout le champ de ce qu'elle avait posé au fil des années pour pouvoir arriver à un endroit juste.
Pauline Perrade, on disait on écrit avec le corps, vous qui écrivez pour le théâtre. Là, vous écrivez un roman, L'âge de détruire. En écrivant, est-ce que vous écrivez plutôt là avec vos yeux, en voyant des images et en imaginant peut-être justement sur une scène ce qui peut se voir, ou avec d'autres sens?
Le roman s'écrit plus avec les yeux et que le théâtre plus avec les oreilles, mais je crois que ça soit
oreilles ou yeux, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais ça convoque le corps de toute façon. Enfin, c'est juste la porte d'entrée, disons. Enfin, le seuil n'est pas le même, mais il s'agit d'enquêter, d'être à l'écoute ou de retranscrire en langue, en fait, ce que des images provoquent comme sensation, comme souffle, comme émotion, comme inquiétude. Donc, de toute façon, ça traverse tout le corps.
Mais quand vous écrivez le roman, le théâtre n'est pas là.
Il est là, il n'est pas là. Enfin, j'ai dû le chasser, en fait. J'ai dû vraiment le mettre à la porte pour vraiment pouvoir explorer une autre matière, quoi, qui correspond pas du tout, enfin qui répond pas au même régime, aux mêmes lois presque. Redécouvrir l'action de la temporalité, par exemple, était très très importante, parce que je crois qu'en écrivant pour le théâtre, on écrit avec le plateau est là, enfin, même si je visualise pas du tout un décor, j'ai pas du tout d'image scénique, il est présent quand même. On le convoque un petit peu comme ça, et on convoque des corps d'actrices, d'acteurs. Celle leur est destinée, en fait. Ça pose un espace commun, finalement. Un lecteur ou une lectrice de roman, c'est beaucoup plus mystérieux. Enfin, c'est un rapport, du coup, plus individuel, solitaire. On n'a pas tellement de prise sur la temporalité de la lecture, et il faut quand même la construire dans le livre, par exemple. Ça a été une redécouverte, en fait.
Et on va parler ensuite de L'âge de détruire sur scène, mais je vous voyais acquiescer pas mal à ce que disait Stanislas Nordet sur le fait de ne pas adapter et de garder le roman en scène.
Oui, on disait ça avec Justine, qu'en fait, un peu comme Stanislas, on n'a pas tellement trouvé de mots. Enfin, c'est pas une adaptation, mais on n'en trouve pas, en fait. On sait pas, on a dit traverser, c'est pas tout à fait ça non plus. Enfin, une espèce de réécriture, peut-être. Une réécriture ou un prolongement, un troisième moment autour du livre. Mais oui, moi, ça faisait aucun sens pour moi de reprendre le scénario quelque part de l'histoire pour le réécrire dans une matière plus théâtrale. Le roman, c'est avant tout une langue, donc il s'agit de passer du temps dans cette langue, en fait, et puis dans cet espace, avec aussi cette conscience, parce qu'avec Justine, voilà, vous l'avez dit, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, sachant aussi qu'une partie serait réécrite par le corps aussi.
Passer du temps dans une langue, c'est un bon résumé de ce qui se passe aussi dans Voyage dans l'Est, Stanislas Nordet. Et la langue, c'est aussi les mots qui sont écrits parfois et qui sont sur l'écran ou projetés. On va réécouter la voix de Christine Angot, c'est toujours en 2021, au moment de l'apparition du livre.
C'est un récit que vous faites dans votre livre, Le Voyage dans l'Est. Vous racontez les rapports incestueux qu'avait votre père envers vous.
Alors, c'est pas un récit, c'est un roman. Et je ne raconte pas, j'essaye d'écrire. Et c'est-à-dire de
mettre à distance.
Faire, surtout pas, de rendre extrêmement proche et extrêmement sensible ce qui est vécu et ce qui est ressenti et ce qui est pensé par les personnages, comme si, sans jamais l'expliquer, et comme si le lecteur était comme ça, vraiment aux premières loges, mais sans jamais l'expliquer. C'est pour ça que je dis, je ne le raconte pas, et ce n'est pas un récit. Ce n'est pas un procès-verbal à la police, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un travail assez compliqué, à vrai dire, pour que justement, ça soit très proche, très très proche, le plus proche possible, comme si on était dedans.
Stanislas Nordet, pour être dedans au plus proche possible, parfois ce sont les mots qu'on lit, justement, face à nous sur scène. Et il y a évidemment plusieurs matières dans le roman. Il y a des dialogues, il y a des réflexions sur ce qui s'est passé des années plus tôt. Et puis il y a le journal au milieu. Et ce journal-là, on le lit. C'était impossible de le dire.
Ça C'est marrant, c'est une discussion. En ce moment, je fais un travail avec Claudine Galéa, une autrice, sur un texte qu'elle écrit pour moi. Et dedans, il y a un journal. Et je lui parlais du travail que j'avais fait sur cette partie du voyage dans l'Est. Et effectivement, c'est extrêmement difficile de dire un journal sur scène, parce qu'on ne peut pas être véritablement dans le présent. Donc c'est presque injouable, c'est-à-dire soit il faut le faire distancer, soit il faut... Et donc alors c'est l'endroit qui m'a donné le plus de mal dans le spectacle. Et on a trouvé la solution à la toute fin, on est passé par tous les endroits. À un moment donné, je me suis dit, il faudrait en fait que ce soit Christine elle-même en go qui arrive sur le plateau, qu'on ait un effet de réel très fort au milieu du spectacle et qu'elle lise elle-même. Mais je me disais, après le spectacle est flingué, il ne peut pas y avoir de deuxième partie. J'ai pensé mille trucs et finalement... Bah, ce qui est apparu, c'est qu'il fallait que s'il y ait quelque chose d'assez graphique, la musique d'Olivier Mélano aussi, c'est important, hein, qui est très importante dans le spectacle. Donc, à un moment donné, on a essayé ça parce que les trois comédiennes qui jouent Christine, on a essayé, elles l'ont dit tous les trois ensemble, chacune l'a dit, ça marchait pas, etc. C'était pas leur faute, il y avait quelque chose qui était impossible. Parce que je pense que, pour le coup, un journal, ça ne se dit pas. Pas, c'est infaisable sur un plateau de théâtre, à moins de créer une forme de distanciation qui n'était pas possible, là, parce qu'il n'y a pas de distanciation dans le journal. Et en plus, le journal est très important, il arrive au mi-temps du roman, et il est important parce que stylistiquement, il apporte autre chose, et aussi parce qu'à la fin, Christine le renie d'une certaine manière, en disant j'ai jeté ce truc dans un coin, j'ai plus voulu en entendre parler.
Et c'est vrai que c'est un peu le point de bascule entre deux parties, ou avec deux figures masculines différentes aussi, puisqu'on est évidemment, on parle du père au début, et puis ensuite il y a la figure de Claude qui est le mari, qui est, je crois, un personnage important pour vous, qui a été témoin et qui a su et qui a entendu, n'a pas su dire. Et pourquoi ce personnage-là en particulier, témoin spectateur, un peu comme nous, vous a...
J'ai l'impression que quand on décide de porter un texte à la scène, c'est pour qu'il touche le public. Et donc, moi, je me pose toujours la question de à quel endroit le public va être touché, à quel endroit il va se reconnaître, où est-ce qu'il va pouvoir s'identifier. Et c'est dur de s'identifier dans le personnage du père. C'est pas si simple que ça de s'identifier dans Christine. Et donc, Claude, qui était là, qui était à côté, qui a vu, qui a entendu, qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, c'est nous tous. C'est-à-dire qu'on ait vécu ou pas des choses terribles dans notre enfance, dans notre vie, tous, on côtoie, on a côtoyé, on est proche de gens à qui c'est arrivé, à qui ça arrive, et qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et c'est en ça que je trouve la figure est bouleversante, parce que elle est pour le coup, comme on dit aujourd'hui, zone grise, quoi. C'est-à-dire, c'est un endroit où il n'y a pas de réponse, finalement. Parce que, comme il le dit lui-même, quoi que je fasse, j'avais l'impression que je me tromperais, que je ne serais pas au bon endroit. Et donc, oui, je n'ai rien fait. Donc là, et pour refaire de la pub pour le film de Christine, qui est magnifique, elle interviewe Claude dans le film. Et on comprend un certain nombre de choses.
Une famille qui est un film documentaire qu'elle a réalisé sur cette famille et qui sortira le 20
mars. Alors, qui est un film documentaire et qui, en même temps, n'est pas un film documentaire. C'est ça qui est beau quand on voit le film, on a l'impression que c'est une fiction en même temps, c'est magnifique.
On va écouter la voix du metteur en scène Jean-Pierre Vincent en 1983.
Je crois que si on regarde l'histoire du théâtre d'un peu haut, on se rend compte que le théâtre qui était au sommet de la pyramide littéraire, encore au début du siècle, ou de la pyramide artistique, est devenu un art, c'est difficile de dire minoritaire, mais en tout cas un art qui touche moins que d'autres modes de loisirs ou de divertissement. La vie culturelle des individus a beaucoup changé en un demi-siècle. Et le théâtre, à mon avis, aujourd'hui, d'autant plus qu'il est devenu minoritaire, c'est-à-dire qu'il touche 10% de la population, le théâtre est, par cette raison même, un enjeu extrêmement important pour la vie des gens. Parce que c'est le dernier lieu, c'est le dernier meeting, c'est le dernier lieu où, sans le truchement d'un appareil, les Français parlent aux Français, ou les hommes parlent aux hommes, avec leur corps, avec leur nerf, leur système nerveux, leur musculature, que sais-je, et s'adressent à des vrais gens, dans la salle, sans truchement. Même s'il y a la séparation du plateau à l'italienne, s'il y en a qui sont d'un côté et d'autres de l'autre, c'est quand même une sensibilité commune qui se joue à partir de l'individu réel.
« Stanislas Nordet, est-ce que c'est le dernier meeting, le théâtre? Parce que là, on parle du roman de Christine Angot, qui a donc pu être lu. L'inceste, ses rapports violents, ça fait partie aujourd'hui du débat public. En quoi, au théâtre, dire et entendre est si singulier, comme il le dit là?
Alors, c'est étrange, parce que j'écoute beaucoup les réactions des spectateurs, et qui, dans leur majorité, en sortant du spectacle, disent « Je n'ai jamais entendu l'inceste. C'est la première fois que j'entends l'inceste. » Et pour cause, c'est-à-dire lire, ça n'a rien à voir. Parce qu'entendre, on est 300, 400, 500 à entendre en même temps, à côté. Et peut-être quand même, parce que ça, je pense que c'est important, c'est aussi parce qu'on entend des choses sur les scènes de théâtre qu'on n'a pas forcément entendues avant. Là, voilà le plaidoyer pour les autrices. Parce que, mine de rien, toute l'histoire du théâtre, elle est quand même dominée jusqu'à très récemment par les voix des auteurs, des hommes. Donc,
Vous avez décidé ces dernières années de monter des autrices.
Il y a quelques années, je me suis dit aussi, pas par, militantisme, je me suis dit, ça, c'est des voix qui vont nous raconter autre chose, qui vont aussi changer le regard des spectateurs, l'écoute des spectateurs. Marie Ndiaye, Léonora Miano, Claudine Galéa, Christine Angot, j'espère bientôt Anne Carson, Constance Debray peut-être. C'est-à-dire que ça n'est pas la même chose, quand même, d'entendre des voix que portent des autrices. Ça déplace quelque chose méchamment dans la façon dont on écoute et on regarde le monde, parce que l'endroit du théâtre, c'est quand même l'endroit de représentation du monde. Donc, je pense que c'est ça qu'on entend aussi dans Le Voyage dans l'Est, c'est que cette parole-là, on l'a rarement entendue au théâtre.
Et en même temps, on se dit qu'il faut dire et dire et dire et redire, et qu'il faut plusieurs couches, parce que par exemple, Christine Angot décrit à un moment dans le livre et donc dans le spectacle, le moment où elle retourne à Strasbourg, elle va au TNS voir un spectacle, un de ses textes. Et elle parle des retours qu'on lui fait, et des réactions parfois des gens, et qui sont complètement décalés, étonnants, à côté de la plaque, enfin blessants parfois. Donc on n'est pas forcément entendu dès qu'on est dit.
Non, mais quand même.
C'est étonnant en tout cas, ce moment-là.
Ouais, bien sûr. Quand elle parle de ça, elle parle aussi beaucoup de ce qui ne bouge pas plus largement dans la société. Ça, c'est très très beau, je trouve, ce qui se... Rien ne change quand même. Enfin, je peux... C'est horrible de dire ça, mais bien sûr, on en parle. Bien sûr, la parole se libère. OK, so what, hein, quand même. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il y a sacrément du boulot encore. C'est-à-dire, parce qu'aussi, on peut se contenter vite, tous autant que nous sommes, de dire « Ah, oh, c'est formidable, la parole se libère. » Bon, ben voilà, tout va bien, quoi. Donc, le chemin est encore long. Donc oui, il faut dire et redire ce qu'elle a fait. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est dingue, quand même, l'inceste, quand elle écrit l'inceste, je ne sais pas, c'est il y a 30 ans, il y a 25 ans. Aujourd'hui, quelque chose s'entend un peu parce que ça fait 30 ans qu'elle le dit, aussi.
Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu de singulier de porter ce texte au Théâtre National de Strasbourg avant d'arriver aux Amandiers là? Puisque tous les lieux du crime, c'est
Pierre Angot, le père,
est
un notable de la ville de Strasbourg. Et à Strasbourg aujourd'hui, dans les abonnés du Théâtre National de Strasbourg, il y a des gens qui ont connu, qui ont été les amis de Pierre Angot. Et d'ailleurs, Christine dit elle-même que quand elle est retournée à Strasbourg après avoir écrit ses romans, elle était traitée comme une traîtresse à la ville, à la classe, etc. Et tout ça, c'est-à-dire, là encore une fois, c'est aussi, quand on prend la parole, on n'est pas indemne, on n'en sort pas indemne. Et c'est ce qu'elle raconte aussi très très bien dans la toute fin du roman, sur la violence qu'elle s'est prise en retour par rapport à ce qu'elle écrivait.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture, nous sommes avec l'autrice metteuse en scène Pauline Peyrade, l'artiste circassienne Justine Bertillot et le comédien metteur en scène Stanislas Nordet, et nous écoutons Anne Clark, Our Darkness.
For this city nightmares, you'd walk with me.
Avec la voix de Nathalie Sarraute en 1976.
Je crois que l'écriture de mes romans n'est pas à proprement parler une écriture écrite, si on veut. C'est une langue parlée. Surtout dans, pas tant dans Le portrait d'un inconnu, où c'était justement encore de la langue écrite, mais c'est de plus en plus de la langue parlée, et de plus en plus dans mes livres, notamment dans le dernier, il y a du dialogue, qui est du faux dialogue si on veut, qui n'est pas du dialogue réaliste, mais enfin, on parle beaucoup. Ce qui fait que le passage du roman à la pièce, à ce point de vue-là, n'était pas tellement difficile.
Pauline Peyrade, est-ce que ce roman « L'âge de détruire » aurait pu, à un moment, être du théâtre, ou jamais ?
Il a failli l'être, à un moment. C'est un texte qui a vraiment cherché sa forme longtemps. Et je crois que c'est aussi quelque chose que le spectacle qu'on fait avec Justine raconte, l'enjeu de dire aussi. La façon dont Christine Angot refuse le verbe raconter, je suis assez, on se retrouve, je pense, dans ça, dans ce qu'elle dit. Mais c'est vrai que la forme du texte aussi, c'est beaucoup cherché pour ça. J'ai beaucoup navigué, il y a eu beaucoup de versions, et à un moment, je suis arrivée à une version vraiment hybride, en fait, vraiment entre les deux. Et c'est quand je me suis mise à décrire l'espace. Que vraiment dans le détail, à plonger dans tous les micro-détails de ce lieu, de ces objets, d'occuper, d'habiter complètement le regard d'Elsa, la narratrice, que le souffle romanesque s'est déployé. En fait.
Et d'ailleurs, sur scène, on est dans l'appartement. Mm. Est-ce que vous pouvez lire peut-être la première page du roman, Pauline Peyrade ? Donc sur scène, vous avez ce même livre entre
Exactement.
Les mains.
Les mollets sculptés et les pieds douloureux dans ces escarpins à talons carrés. Debout, seule au milieu de la chambre. Ma mère trace une petite croix dans l'angle supérieur gauche du plan de l'appartement. Au-dessus de la croix, elle note le mot « cloque ». Juste en dessous, elle précise « plafond ». Elle lève les yeux et fixe un moment la peinture boursouflée les bulles maculées de taches vertes aux contours dilués au-dessus de sa tête. Les restes d'un dégât des eaux. Il y a peu de risque que ça s'aggrave. Elle se demande si une telle remise en état lui coûterait cher en travaux. Un soupir lui échappe, bref et nerveux. L'appartement fait 56 mètres carrés. Il occupe le quart du troisième étage d'un morceau de résidence construit dans les années 70. Un ensemble de tours jaunes claires de différentes formes géométriques, rassemblées autour d'une cour pavée de ciment vieux rose incrusté d'éclats de quartz et reliées entre elles par des parkings souterrains, des ascenseurs aux intérieurs couverts de moquettes marron et de miroirs, des cages d'escalier en béton et des passerelles de verre aériennes. Il compte deux chambres, un salon, un balcon à l'embranchement du salon et de la première chambre qui surplombe la rue, une cuisine, une salle de bain et des toilettes. Du blanc et de la toile de jute fibreuse habillent les murs. Du carrelage blanc ou rosé protège les espaces exposés à l'eau et à la saleté. Une moquette à poils ras, couleur vermante, couvre les sols des couloirs, du salon et de la chambre qui donne sur le balcon. La deuxième chambre, située à l'extrémité nord, du côté de la cour intérieure, se distingue par sa moquette mouchetée, bleu mer et blanc.
Je crois que vous parlez, Justine Bertillot et Pauline Perrade, de lecture-action et de justement, on parlait de l'adaptation, de ne pas adapter le roman, mais d'être dans un récit qui traverse des états. C'est quoi une lecture-action pour vous, Justine Bertillot?
C'est vrai que là, on parlait de l'appartement, mais c'est vrai que moi aussi, en tant que... Moi, j'ai lu avant que le récit soit... Enfin, que le roman soit édité et terminé aussi. Donc, j'ai pu lire plusieurs étapes. Mais ensuite, quand Pauline a achevé le roman, moi, il y a eu vraiment... quelque chose à ma lecture dans avec cet appartement et avec l'état aussi de cette mère qui n'arrive pas à habiter l'appartement et de cet état où ensuite arrivent les événements traumatiques qu'elle vit avec sa fille. Mais tout de suite, j'ai eu vraiment une image de cette mère perdue, désœuvrée dans cet appartement. Et on s'est vraiment beaucoup basé sur cette image aussi pour penser le spectacle et puis la scénographie, mon corps aussi, comment il s'inscrivait aussi là-dedans. Et il y a eu tout de suite quelque chose aussi, dans notre travail, on savait déjà qu'on avait envie d'assumer, de porter ce récit, de dire qu'on portait ce récit ensemble au plateau. Et donc de ne pas adapter le roman, mais de plutôt de dire qu'on le racontait ensemble avec nos deux écritures formelles aussi, donc avec la littérature et la danse.
Parce que vous n'êtes pas comédienne ni l'une ni l'autre.
Non.
Vous êtes autrice et on dit artiste aussi.
Artiste chorégraphique. Oui, voilà. Mais on savait déjà que c'était vraiment via aussi nos ressources formelles à toutes les deux qu'on avait envie de naviguer et de cheminer avec le parcours d'extrait, les fragments qu'on a choisis. Et c'est vrai que lecture-action, alors c'est ce qu'on a trouvé de plus... on a été obligé d'inventer ce terme, puisque, en effet, adaptation, ça ne nous convient pas. Donc lecture-action, c'est ce qui nous paraît le plus juste, dans ce relais entre les mots et puis le corps, quoi.
Pauline Perrade, est-ce que ça a été... évident dès le départ justement de pas être dans l'incarnation parce qu'on est dans un appartement, il y a la mère, la fille, dans l'adaptation, dans ce moment scénique, cette lecture-action, il y a des personnages qui disparaissent, il y a la grand-mère qui est présente dans le roman qui n'est plus là, il y a Issa, son amie qui n'est plus là, donc on est vraiment dans ce face-à-face, ça aurait pu être l'incarnation, ça n'est pas ça, et vous êtes... l'autrice en scène avec le roman à la main, lisant des extraits. Est-ce que ça, c'était une évidence d'être vous en scène, à la fois écrivaine et prenant en charge ce récit?
Oui, ça fait partie de l'élan premier du projet. C'est le troisième projet qu'on fait ensemble avec Justine, et le tout premier qui était Point, après le sujet vif qu'on a fait en 2015, on était ensemble au plateau. Et dès le départ, parce que quelque part, littérature et mouvement et danse ne vont pas ensemble. Enfin, on peut pas. C'est très compliqué de suivre à la fois un récit de mots et un récit de corps. Le cerveau y arrive pas tout à fait. En fait, donc, on est sans arrêt à devoir penser le relais ou se déplacer ou trouver des terrains communs, donc là c'est l'endroit de la lecture qu'on saisit toutes les deux pour pouvoir porter des récits ensemble Et on avait vraiment envie pour ce troisième projet de se retrouver. Donc déjà, ça, on savait qu'on serait toutes les deux au plateau. Moi, la lecture des textes, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Enfin, c'est vraiment partie de choses très simples, en fait. Hein, de dire, voilà, ça me semble pas du tout... Enfin, je suis pas actrice, vous l'avez dit, donc j'allais pas m'improviser actrice pour porter ce texte, qui n'est pas du théâtre en plus. Donc ça facilitait aussi le cheminement, sans doute. Mais de se dire, voilà, ça va être un moment de lecture, aussi un moment de corps, un moment de geste. Je pense que le terme action vient aussi du fait qu'on est plongé dans un espace du quotidien, que la chorégraphie s'appuie sur des objets, des travaux, la visseuse, le mur, on est des cafetières, on est vraiment, voilà, dans des gestes très, très, très concrets, en fait, qui doivent se lire, mais comme dans, aussi présents qu'ils sont dans le roman, en fait, quelque part. Il y a une vraie transposition, je crois, entre le traitement de l'espace, la lecture du corps et la manière dont l'histoire se raconte dans le roman. Et c'est vrai que, ben, on s'est dit assez vite qu'on pourrait pas tout raconter, qu'on n'adapterait pas tout, qu'on était deux, qu'on avait envie de reconvoquer cet espace de l'appartement et d'explorer le rapport entre la mère et la fille, en fait, et de suivre, de tracer cette voie, en fait, dans le roman.
Avec ces deux âges, qui ouais. est la même structure que le roman, ouais, ouais. âge 1, âge 2, ouais. quand la petite fille Elsa a 7 ans, ouais. et quand ensuite elle est devenue adulte.
Oui. Oui, oui.
Là-dessus, on s'est quand même questionné un petit peu, parce qu'on avait envie au début de radicaliser un peu les deux écritures, et donc on se disait, est-ce que l'âge 1, c'est le corps qui porte l'âge 1 entièrement, et puis l'âge 2, on est sur une lecture. On est vraiment parti de ces deux pôles, d'essayer de radicaliser nos deux écritures, et puis finalement, ça devait se tisser et on a ensuite conçu les deux âges différemment. Mais...
Parce que l'âge 1, justement, mmh. où c'est une enfant, on est à travers les sensations et la perception d'une enfant. Mmh. Et cette violence et ces abus de la mère sont vus et racontés à travers les sensations d'une petite fille de 7 ans. Ensuite, dans l'âge 2, on est plus dans quelque chose qui s'émancipe et qui réfléchit.
Oui, oui. Ouais. Bah, l'âge 1... Ça, en fait, ça m'a aidé aussi, enfin, qu'on porte ce projet ensemble pour parler du livre, parce que c'est pas évident de savoir exactement par où, enfin, comment expliquer un petit peu. Il porte beaucoup de mystères encore pour moi, mais je crois que il y a l'inceste évidemment qui existe dans le livre, mais je crois que c'est aussi une écriture qui a cherché à saisir l'incestuel, enfin tout le climat autour, toute la toile en fait, qui est bien plus vaste que l'abus sexuel seul. Ça, voilà, enfin, il y a tout un réseau autour, parce que ce qu'explique aussi très bien Neige Sino dans Triste Tigre, et puis et évidemment Christine Angot dans Le Voyage dans l'Est. Mais donc ça, l'âge 1 est plus, voilà, une espèce de bain dans ce climat-là, et je crois que la violence à l'œuvre dans l'âge 2 et la tentative d'effacement de la mémoire par la mère et de dire, voilà, de nier ce qui s'est passé, la domination passe aussi par là. En fait, par le fait d'être dépositaire d'un récit. Là, en plus, elles ne sont que deux, donc il n'y a pas de témoin à l'histoire. Dans le livre, il y a Issa, mais la petite fille, mais elle part très vite, elle est chassée très vite. Là, dans notre forme, il n'y en a pas, en plus, donc ça aggrave la situation. Et se dire, ben voilà, si l'effacement de la mémoire a lieu, en complicité, en plus, avec la fille, enfin là, c'est foutu, quoi. Donc c'est vraiment... L'âge d'or raconte ça, une réappropriation de la mémoire qui est enfermée dans les objets, enfermée dans les lieux, et qui va permettre à Elsa d'en sortir.
On va écouter un extrait de L'âge de détruire.
Nous avons des mains identiques. Seule l'épreuve du temps permet de les distinguer. Nos articulations sont marquées. L'index et l'annulaire sont courbés vers l'intérieur. Ils semblent vouloir se rejoindre. Sa paume est charnue, la mienne creusée. Ses doigts sont plus épais, plus solides que les miens, frêles encore et espacés, trop fins pour se toucher quand je les rassemble. Elle ne quitte plus les bagues qui lui viennent de ma grand-mère. Elles ont pris chair dans sa chair, comme si les pierres précieuses avaient poussé sur ses phalanges, le métal coulé de sa peau.
Elles seront à toi un jour.
Je ne la crois pas quand elle dit ça. Il faudrait les scier, désincruster le métal d'elle. Ce serait un carnage.
Il faudrait que tu me dises ce que tu veux garder de tes affaires.
Quelles affaires ?
Dans la chambre bleue, C'est là depuis des années, ça sert à personne. Superstar, where you from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer. Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You, you, you are, you, you, you are. Womanizer, womanizer, womanizer.
On n'a pas résisté à écouter Britney Spears, qui est présente dans le spectacle. On entendait juste avant un extrait de L'âge de détruire. Donc dans l'âge 2, c'est la jeune femme qui regarde ses mains et les mains de sa mère. En parlant de corps, Justine Bertillot, c'est quoi pour vous le début du travail, enfin l'impact des mots et du roman pour commencer ce travail de corps quand vous arrivez au plateau en écho à la lecture de Pauline Perrade?
Moi, je pars vraiment de mon endroit de lectrice, en fait, tout simplement. Il y a soit des images ou des mots qui attrapent particulièrement mon attention, qui s'imprime dans mon corps, et c'est comme des petites brèches aussi où je vois que formellement je peux travailler aussi des matières, développer des matières, mais c'est vraiment ça part vraiment des premières impressions de lectrice, en fait. Donc j'attrape un petit peu des appuis comme ça, des points d'appui dans le roman, et puis ensuite on échange un peu avec Pauline. Je lui dis un petit peu là ce passage, je crois que je peux me l'approprier encore aussi, en faire quelque chose, le raconter autrement, le transposer. Toute la difficulté, enfin en tout cas tout le travail du corps, c'est de transposer, de ne pas raconter ce qui est dit dans le roman, de ne pas juste
de ne pas illustrer la
brutalité, etc. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, mais on savait tout de suite qu'on n'avait pas, l'intérêt n'était pas de montrer l'horreur, et donc moi dans le corps c'est pas du tout cette porte d'entrée là, mais c'est plutôt de trouver au plateau aussi avec les objets, notamment de comment transposer des émotions, des états aussi, des sensations. Donc par exemple, il y a ce mur à la scénographie qui nous aide à raconter la destruction de la petite fille par la mère, qui raconte l'incestueux, mais d'une manière vraiment déréalisée, enfin abstraite, autrement en fait. Donc il y a ce travail de raconter autrement via le corps, et puis il y a aussi quand même de conduire le fil dramatique aussi, et de quand même à des moments de raccrocher aussi à des événements qui sont dits dans le roman. Donc il y a un petit peu, s'il y a toujours une oscillation entre ces deux choses dans mon travail, et cet aller-retour à mener entre les besoins de dramaturgique, dramatique, et en même temps la recherche formelle. Mais je dirais que c'est assez instinctif, en fait. Voilà, moi, en lisant, je vois un état émotionnel, des états de corps, et puis ensuite j'essaye de travailler à partir de ça. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de il s'agit d'un corps qui est avec des mouvements assez saccadés, de beaucoup de contorsions, un corps qui est très tendu aussi. En même temps, il y a une certaine mollesse aussi, un corps qui n'y arrive pas, quoi. Donc voilà, je travaille un petit peu avec ces états émotionnels.
Et Pauline Perrade, en tant qu'écrivaine du roman, est-ce que c'est facile d'abandonner des pages?
Les abandonner à Justine, oui. oui. C'était presque... J'ai pas le sentiment de les avoir abandonnés, en fait. Je crois qu'on a vraiment pensé ce projet comme autre chose, avec ce terrain commun, voilà, que nous proposait le roman. Et puis après, ça a été pour le coup un travail de petites mains de couturière pour vraiment chercher le. C'était, enfin, on a choisi les épisodes de l'histoire, mais après pour choisir, puisqu'on voulait pas toucher à la langue, mais pour choisir les extraits, les dessiner, c'était à la phrase, au mot près, au souffle près, pour savoir quand est-ce que là, rythmiquement, le relais peut se faire, ou jusqu'où on a besoin d'aller dans l'image pour vraiment la compléter par rapport à l'image que le corps propose. Enfin, après, c'est vraiment des.
Beaucoup d'allers-retours. Ouais. Ouais.
Est-ce que c'est possible de lire les dernières phrases du roman,
oui.
Pauline Perrade ?
Nous vivons rangés, à moitié morts, à avaler tout ce qu'on nous met dans la gueule.
Nous tuons les tueurs pour les soulager de tuer.
Nous nous tuons nous-mêmes pour ne tuer personne.
Et c'est ainsi chez le voisin, chez la voisine, dans toutes les familles.
De génération en génération.
On parlait tout à l'heure de la singularité du théâtre et de ce lieu-là. Ce roman aurait pu rester un roman, et puis je crois que vous travaillez une prochaine pièce de théâtre. Enfin, pourquoi pour vous c'est important de dire cette langue-là aussi et ce roman sur scène, Pauline Perrade ?
Bah, c'est vraiment venu de deux choses. D'une part, l'évidence qu'avec Justine, on avait quelque chose à faire avec, et de le désir de se retrouver en fait autour de cette matière qui résonnait avec ce qu'on avait fait jusqu'à présent, enfin des récits de femmes en lutte et de parcours dans les violences du quotidien, enfin ça, puis le fait que Justine aussi arrive avec des images de plateaux de corps comme ça très fortes, ça a nourri le désir. Et quelque part c'était aussi pour moi aller au bout du geste, finalement. C'est d'aller jusqu'à le faire entendre. Enfin, c'est parce que les récits de violence, c'est la question qui se pose du début à la fin du travail et qui est renouvelée sans cesse. Enfin, je vous écoutais sur parler de Christine Angot qui doit sans arrêt redire. Je pensais à la phrase d'exergue du roman de Virginia Woolf et ainsi de suite. Le roman sur l'âge de comprendre, l'âge de détruire et ainsi de suite. Et c'est, ça raconte ça aussi, quoi, qu'il faut sans cesse, pour soi-même, quand on est dans cette situation, y revenir, mais aussi pour se faire entendre, y revenir sans cesse. Je crois qu'il y a énormément d'ambivalence, en fait, dans la réception et tout le commentaire, en fait, qu'on a autour des récits de violence, peut-être encore plus, je ne sais pas, plus ou moins, j'en sais rien, des récits de violence sexiste, sexuelle, peut-être plus, j'en sais rien, disons des récits de violence tout court. D'à la fois la confusion entre ce qui est violent, c'est pas le récit, c'est ce qu'il raconte. Il s'agit pas de faire violence aux gens en le racontant, mais c'est bien plus violent de ne pas le dire, en fait. Et en même temps, ça génère des réactions qui viennent redoubler la violence parfois sans le vouloir. Moi, par exemple, je suis toujours très surprise parce que l'âge de détruire, pour le coup, c'est une fiction. Enfin, il y a un personnage voilà, qui porte un nom qui n'est pas le mien, etc. Et je suis toujours surprise d'entendre des questions de « Alors, avez-vous vécu ça ?» Et je dis « Mais est-ce que vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser ?» quoi. Enfin, c'est totalement intrusif, enfin, c'est terrible. Puis s'il y a un choix de fiction, c'est pas pour rien. Enfin, et en même temps, à la sortie de lecture, de systématiquement des femmes qui viennent témoigner, enfin, ou raconter comme ça, faire part, partager des violences subies. Donc ça circule dans tous les sens et de manière totalement, totalement chaotique. Donc à un moment, de dire voilà, on se rassemble, on propose, on l'adresse en fait, on va face à une assemblée bien physique, bien réelle, et ça nous permet de penser cette question-là aussi, en fait, de comment on l'adresse, qu'est-ce qu'on adresse, à quel point à quel endroit on ne se dérobe pas. À quel endroit on peut proposer des pas de côté, comment est-ce que ça, c'est appropriable et partageable et audible, en fait. Et c'est ça aussi, je pense, qui a mené l'écriture du spectacle pour nous.
Stanislas Landais, vous avez entendu un peu les réactions et la réception des spectateurs, spectatrices du Voyage dans l'Est. Il se trouve que j'étais dans la salle hier et qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent.
Mais... Ce que vous disiez toutes les deux me fait penser, on parle souvent de choses indicibles. Mm-hmm. Et justement, les choses indicibles, il faut les dire. Mm-hmm. J'ai monté un texte de Léonard Amiano il y a 12 ans qui s'appelle « Ce qu'il faut dire ». Mm-hmm. Toute cette question-là, le dire, c'est bien, mais il faut que ce soit entendu. Et évidemment, revient la question du public, c'est-à-dire l'énorme différence entre le roman et le théâtre, c'est que le roman, on est seul à le lire. Et on le lit à voix basse, en général. Mm-hmm. Alors, je sais pas, il y a des gens qui doivent lire à voix haute. Mais on le lit en général à voix basse, donc on ne l'entend pas. Donc, le passage à la scène, au théâtre, à l'oralité... On ne peut pas faire autrement qu'entendre quand on est spectateur. Alors après, tout l'art, je pense qu'on développe dans la mise en scène et tout ça, c'est justement de ne pas asséner, de ne pas culpabiliser, de ne pas en rajouter, de ne pas brouiller justement par une mise en scène sordide de la violence. Mais dire et entendre... Il se passe déjà beaucoup de choses, hein. Je veux dire, tous dans notre enfance, qu'est-ce qui nous, au-delà des faits qu'on a subis, c'est des mots parfois qui nous ont blessés à mort, à jamais. C'est-à-dire la force des mots, c'est ça qui est beau et magnifique. Voilà. Donc oui, ce qui se passe dans le public est assez particulier, assez beau parce que les gens entendent. Bon, voilà. Et c'est le travail magnifique que font les acteurs et les actrices aussi. C'est parce que pour faire entendre, pour l'acteur, il faut mettre aussi son ego à un autre endroit. C'est aussi se déprendre de quelque chose. C'est pas exactement l'incarnation, c'est quelque chose à côté, en déport.
Et je dirais ce qui vaut aussi, parce que c'est vrai qu'aussi ces relations incestueuses, enfin ça imprime vraiment profondément les corps, donc ça trouble aussi après dans notre propre relation au corps, et du coup c'est ça aussi qui peut être vu aussi, comment un corps il peut être profondément marqué, transformé, altéré par une violence comme celle qui sont représentées là.
De cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir, merci à Dofar Guérid.
shadow.